pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 190. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et on va parler de... c'est notre épisode des Awards.
Et oui, notre épisode des Awards avec lequel, théorie, un épisode qu'on devrait faire avec Stéphane Boulet, mais qui n'est pas là, car il n'a pas pu venir.
Alors... si vous m'entendez en train de chanter, ce que vous avez peut-être reconnu étant la musique de La Roue de la Fortune, c'est que, oui, en fait, j'ai la musique de La Roue de la Fortune depuis tout le temps, toutes ces années qu'on fait les épisodes
d'Awards. Si vous avez reconnu la musique de La Roue de la Fortune, écrivez-nous, parce que franchement, moi, je vous avoue que je ne l'ai pas. Mais...
Et alors oui, vous l'avez entendu, évidemment, c'est Benjamin François de l'autre côté du poste, c'est Hello Benji.
C'est moi. Salut Daniel, salut les auditeurs.
Et oui, nous devons déplorer l'absence, et on va dire même la trahison.
Faut déplorer, bon, vite fait.
La trahison, ouais. Mais de toute manière, comme il écoute ni,
plutôt, ouais.
Il n'écoute ni podcast, ne communique pas, et en plus, il parle en signaux de fumée que seul dans son village on peut voir. Stéphane Boulet n'est pas là. Et pourquoi? C'est parce que, comme il a un changement de statut Facebook, comme on dit, et un changement de statut tout court, et il se couche très 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 tôt, et il se lève très très tôt aussi, je crois. Et donc,
il me semble qu'il a beaucoup de route aussi.
Hein. Oui, et pour le gauler, en fait, il faut que ce soit les vacances scolaires. Donc on va parfois de temps en temps on va dire Stéphane il a aimé ça juste pour balancer.
Ouais, et pour graver les blockbusters du coup faudra le faire pendant les vacances, mais ça tombe bien avec la sortie d'Avatar au final.
Ça tombe bien avec la sortie d'Avatar, mais espérons qu'il ne passe pas son temps à regarder du cinéma parce que de toute manière ou à jouer aux jeux vidéo, ça c'est le pire quand même.
Moi ce qui me fait peur c'est qu'il ait pas le temps de voir la plupart des blockbusters de cette année hein, du coup.
Mais c'est pas grave, on les gravera dans le vent.
On les gravera pour lui hein.
Et de toute manière je n'aurais pas eu le temps parce que comme tu sais, je suis encore en convalescence. Et je suis allé 3 fois au cinéma depuis, mais bon, c'est toujours un peu une épreuve. Il faut prendre le métro et je suis pas encore complètement remis. Je tiens à saluer les 3 personnes qui m'ont donné leur siège à l'époque où j'avais les béquilles. Je dis 3 parce qu'en fait, les autres ils regardent leur portable, ils bougent pas vraiment. C'est et donc, on tient aussi à remercier Baptiste au montage. Baptiste qui est ravi de l'absence de Stéphane Boulet parce que
déjà, oui. ça fait 30% de boulot en moins,
ça fait du taf en moins. Et en fait, peut-être que c'est lui qui fait croire à Stéphane que vous êtes un proviseur dans une école et tout ça. Et en fait, Stéphane, il va au taf. En fait, c'est peut-être Baptiste qui a fait croire à Stéphane depuis ce temps qu'il a un taf en plus.
Baptiste, je ne sais pas s'il va être ravi des 11 minutes de digression avant qu'on commence à enregistrer, mais écoute.
Écoute. Pas con. Non, mais peut-être qu'aussi, il sent cette chaleur entre nous, puisqu'il a entendu beaucoup de remix de La Roue de la Fortune.
De La Roue de la Fortune.
Et d'autres chansons. Benji, je te propose de commencer par le premier Awards et on va tout de suite, parce qu'on est after hate, les gens disent « vous faites pas assez de hate », on va commencer tout de suite avec l'Award du pire mec de l'année.
Alors je me demandais si t'allais commencer direct avec celui-là, parce que c'est quand même un gros morceau.
C'est un gros morceau, mais en même temps, il faut quand même, taper. Il faut quand même taper fort et un peu mettre notre marque de fabrique. Et il y a une dissonance entre toi et moi. Est-ce que tu veux que je te laisse l'honneur?
Mais je pense que la dissonance s'explique par notre situation géographique.
D'accord.
En fait, Daniel, j'annonce le mien. Pour moi le pire mec de l'année, et qui globalement est un pire mec depuis un paquet d'années quand même, mais là cette année il a vraiment fait très fort. Alors on aurait pu croire que j'aurais pu choisir mon président, mais non, j'ai décidé que le pire mec cette année c'était Elon Musk, pour l'ensemble de sa carrière globalement. À peu près tout ce qu'il a fait cette année, c'était catastrophique. Alors, on peut parler du fameux Doge, le truc qui était censé nous économiser des thunes et qui, au final, aura coûté plus d'argent au gouvernement américain qu'autre chose, qui, dans le même temps, va causer la mort prématurée de centaines de milliers d'enfants dans des pays en voie de développement. Et j'exagère à peine, hein, c'est des estimations basses qui ont été faites, disant que toute l'aide qui était envoyée par le gouvernement américain à ces pays et que Musk a coupé globalement va provoquer le décès de centaines de milliers de personnes, y compris d'enfants. Donc c'est une espèce d'ordure qui a du sang sur les mains quand il les a pas dressés bien haut, quand il fait des saluts nazis à la télévision.
C'était cette année le salut romain ?
Oui, c'était cette année.
Ah
ouais.
Putain, quand même. Ouais. Je sais pas si je pourrais vaincre avec mon lauréat.
C'était lors de l'investiture de Trump, quand il a fait un petit discours et puis il a fait son salut nazi. Voilà, donc c'est une immense merde qui, là, dernièrement, fait parler de lui parce qu'il met genre sa fille en disant globalement qu'elle est victime du virus des woke. Enfin bref, Elon Musk, énorme merde. Ça ne change pas, hein. Je pense que c'était aussi mon pire mec de l'année dernière. Et puis parti comme il est, ça sera mon pire mec de l'année prochaine.
Je sais pas, je crois qu'on a fait moins d'hours parce qu'il y avait Stéphane, donc il faut être un peu plus concis.
Ouais.
Là, ce coup-ci, on va se laisser aller.
Avec toi, Daniel, quel est ton pire mec de l'année?
Pour ma part, évidemment, la dernière fois que j'ai vu Elon Musk, c'était un podcast. Et il parlait d'un truc génial sur l'IA en disant « Mais on peut faire des roasts, et on peut demander à l'IA de faire un roast de quelqu'un. » Et il disait « Ouais, mais tu peux être encore plus violent dans ton roast et dire à l'IA d'être encore plus violent. »
Ah oui, puis il était mort de rire alors que c'était catastrophique, quoi. Ben oui.
Il était mort de rire et surtout, genre, mais c'est la non-intelligence, c'est vraiment le rien, c'est vraiment le fin de l'intelligence, quoi, quand même.
Ah bah, quand tu vois à quel point ce type est un demeuré, tu te dis le fait que ça soit le mec le plus riche du monde, c'est quand même un signe que la société est globalement foutue, hein. On en est à un point où...
Alors, moi, la société n'est pas foutue, car moi, je voudrais faire un award, un award collectif pour toute une famille, c'est la famille Sarkozy. C'est père, épouse, enfant, et j'insiste sur enfant, puisque moi, jusque l'année dernière...
Alors, surtout Louis quand même, hein, t'es dur avec les autres qui se sont fait oublier depuis quand même.
Écoute, moi je veux bien qu'on soit un peu doux pour Kunta Kinte, pardon, je voulais dire Mandela, pardon, je voulais dire Nicolas, qui nous a fait quand même, qui nous a pondu un livre où littéralement il dénonce les conditions carcérales, alors que avant d'être en prison, quand il était président, il disait mais la prison pour vous, c'est le Club Med.
C'est le Club Med, oui, voilà. Ouais.
Ouais, c'est le Club Med et tout ça. Et là maintenant, là, ça y est, on lui sert du café pas très chaud. Et littéralement, pour lui, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Et encore une fois, je sais pas s'il l'a fait avec l'IA, mais en tout cas là, c'est la preuve que l'IA peut se mettre au niveau de Sarkozy peut-être, ou alors simplement que Sarkozy peut se mettre au niveau d'une IA. Mais en tout cas, son bouquin pondu en 18 jours et sans doute écrit sur des bouts de papier toilette. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que voilà, pour toute son œuvre évidemment, mais son fils, est-ce que il pourrait pas aller sur une île déserte?
Alors, tu parles de Louis, précisons.
Oui, oui. Est-ce qu'il pourrait pas faire genre un rendez-vous familial, tous aller sur une île déserte et y rester?
Ah, je t'avoue que Louis Sarkozy ne manquera à peu près personne, vraiment. Par exemple, j'ai pas grand-chose contre Pierre Sarkozy, qui, on le rappelle, est un producteur de hip-hop, quand même.
C'est un DJ.
C'est un DJ, un producteur de rap. Jean Sarkozy, j'aime bien comme sa page Wikipédia dit qu'il travaille comme juriste au sein du cabinet d'avocats Realize, anciennement Claude et Sarkozy, dont son père est l'un des quatre associés, sans que son rôle y soit très clair. Donc globalement, il a potentiellement un emploi fictif.
Tu veux dire qu'il y a un mec sur Wikipédia qui s'est fait chier à écrire ça?
Ouais, et qu'il a sourcé. Il y a une source.
Son rôle n'est pas clair, ça veut dire qu'il se lève pas de bonheur.
Mais tu vois, à choisir entre Jean et Louis, je prends Jean tous les jours. Louis, c'est vraiment mais du résidu de fumier, quoi.
Mais il va me faire aimer Jean, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont tous
mais ouais.
Et tu sais quoi, Howard, futur Howard, parce qu'on dit Howard du pire mec, mais ayons une pensée quand même pour Julia, qui va révéler tout son potentiel à 18 ans, je pense. Est-ce que
elle est gaulerie sur TikTok un peu.
Mais t'as vu son gâteau d'anniversaire? Enfin, le gâteau de...
Ah non.
Oh là là, mec, il a fait un gâteau pour papa, pour sa sortie de prison.
Ah, j'ai pas vu.
Et genre, il y a des fautes d'orthographe et tout. Ça fait... C'est un peu la tiep, mais tu sais quoi, au moins...
Elle m'a fait rigoler sur TikTok ou sur Instagram quand elle expliquait que globalement, c'était quand même dégueulasse que son père aille en tôle. C'était très
drôle. Il le connaissait même pas, Kadhafi. Ouais, à part ça, tout va bien.
Kadhafi, mais je sais même pas qui c'est. Bah ouais, bah c'est bien une partie du problème, ma petite Julia.
Benji, je te propose de passer à l'award suivant. L'award des meilleures séries. C'est moi qui vais commencer.
Vas-y, vas-y.
On va alterner comme ça. Moi, je choisis Gundam Jiquax. Gundam Jiquax, c'était ma série de l'année.
Ah, déjà, tu sais, je suis ravi parce que j'entends enfin comment ça se prononce après l'avoir vu écrit et je ne comprenais pas. Pour les gens qui ne savent pas, ça s'écrit GQ, une quantité indéfinie de U suivi d'un X.
Il s'est défini, il y a 6 U.
Il y a 6 U, donc ouais. GQ, 6 U, X. Jiquax.
On peut dire que c'est la manière la moins commerciale de vendre un titre. Et pourtant,
ouais.
Non, c'est vrai que c'est un peu casse-pipe. Et pourtant, c'est une des meilleures séries Gundam que j'ai vues depuis très longtemps.
D'accord.
Qui repose énormément sur le fait que tu connaisses la série originelle, puisque ça commence comme un what if. Et moi, j'étais dans la salle au moment où ils ont montré, il y avait un montage des 4 premiers épisodes, et j'étais pas au courant, et j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais à la fois estomaqué, et en même temps, je me disais, mais où je mets les pieds? Et jusqu'au dernier épisode, je savais pas comment ça se finir, ça passe à toute berzingue. C'est 12 épisodes vraiment, vraiment, qui... Il y a une montée en épingle vraiment, vraiment du tonnerre. Et c'est assuré par le studio Kara, qui est aujourd'hui possesseur d'Evangelion, puisque Hideaki Anno est le patron de Kara.
Bah, les vrais successeurs de Gainax. Gainax, d'ailleurs, qui, il me semble, a été dissous la semaine dernière.
Ouais. RIP Gainax. Mais...
Triste fin,
mais en même temps.
Bon, après, c'était plus que l'ombre de même.
Voilà, c'était une coquille vide et c'était une coquille à licence. Et aujourd'hui, la licence Evangelion réappartient à Hideaki Anno à 100%.
Ouais. Pour revenir sur Gundam, j'aimerais savoir. Donc, tu disais, c'est un what if sur la toute première série Gundam. Il n'y a pas besoin de connaître d'autres séries Gundam.
Non, il faut connaître que la première.
Mais il faut connaître la première quand même.
Ouais, il faut connaître la première ou avoir vu les 3 premiers films. Il y a juste un truc, c'est qu'il y a des petits clins d'œil à Zeta Gundam. Mais très très rapide, de l'ordre de, ils ont mis une musique, tu vois, c'est vraiment des trucs comme
oui,
ça.
Oui, d'accord, donc c'est
ils ont
vraiment
mis une
pas
musique,
essentiel.
Ils ont mis un robot qui ressemble, ils ont mis quelques trucs, et à la fin de la série, il y a une référence à Gakushu no Char, qui est le film conclusif de l'arc principal de Gundam. Mais à part ça, il faut connaître que le début, quoi.
D'accord.
Et toi, qu'est-ce que tu as à me recommander comme série?
Alors, je vais enchaîner. Et quand tu m'as demandé de choisir un award de la meilleure série, j'étais un petit peu embêté parce que globalement, cette année, j'ai pas regardé grand-chose. J'ai regardé une série qui est notre runner-up qu'on a aimé tous les deux, qui est Severance. Donc, j'ai regardé la saison 3 de Severance. Mais surtout, je me suis lancé dans un rewatch de tout It's Always Sunny in Philadelphia. Et vu qu'il y a beaucoup de saisons, ça prend beaucoup de temps. Donc du coup, ma série un petit peu de 2025 qu'on a presque terminée avec ma femme et qui est mon award, ça va être Welcome to Wrexham saison 4. Welcome to Wrexham, j'en avais déjà parlé, c'est donc ce documentaire qui suit l'ascension fulgurante de cette équipe du Pays de Galles, de la ville de Wrexham, qui était tout au fond des ligues de football britanniques.
Mais il y a combien de saisons de ce truc?
Là, on en est à 4e saison.
Mais ils suivent toutes les saisons, en fait.
Et en fait, depuis qu'ils ont... c'est Rob McElhenney et Ryan Reynolds ont décidé d'acheter le club et de financer le club et d'aider le club qui donc était au niveau, alors tu sais pas si tu suis un peu le football anglais, mais c'est l'équivalent de la division d'honneur en France, qui est vraiment, il me semble, le niveau le plus bas possible du football professionnel. Et donc, ils les ont fait monter, en fait. Ils sont montés saison après saison. Et à l'heure actuelle, ils sont dans ce qui s'appelle la League One et ils se battent pour entrer dans ce qui s'appelle le Championship, qui est donc l'ultime ligue avant la première ligue, qui est l'équivalent de la Ligue 1 française, la première ligue anglaise. Et donc, tout le suspense, c'est est-ce qu'ils vont réussir 3 années d'affilée à monter d'une ligue? C'est quand même un exploit absolument phénoménal. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du football anglais. Et donc, le suspense, là, j'ai pas encore vu le dernier épisode, c'est est-ce que Wrexham va monter dans ce qui s'appelle donc le Championship? Ils ont vraiment des noms bizarres. Hein. T'as la League One, le Championship et ensuite la Première Ligue. C'est très, très bizarre. Mais c'est tout le suspense. Et donc, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du football anglais. 3 années d'affilée, 3 montées dans la catégorie supérieure. Donc, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore vu le dernier épisode, mais c'est tout le sel de cette série et c'est toujours extrêmement bien fait, extrêmement bien raconté et ça se suit avec un suspense incroyable. En fait, t'es super stressé pour eux, en fait, t'as toute l'adrénaline pendant les matchs avec tout le suspense et c'est vraiment vachement bien.
Alors que t'aimes pas le foot?
Non, je n'ai rien contre le foot, mais j'avoue, je ne suis pas autant le foot qu'à une époque, ça c'est sûr. Surtout à distance, c'est plus compliqué.
T'es pas un footeux, quoi.
Je ne suis pas nécessairement un footeux, non.
Ouais, et puis j'aime toujours Severance. On était une année Severance, donc j'étais assez content.
Chouette, saison 2, Severance.
Je suis d'accord avec toi, et on va passer au prochain award. l'award suivant, évidemment. On voit où on veut en venir. Écoutez l'intitulé, vous allez comprendre tout de suite de qui on parle. C'était l'award de la meilleure suite d'une saga sortie au cinéma. Vous savez, le cinéma, c'est des séries longues, c'est des films à grand spectacle qu'on attend. Et évidemment, tu vas nous parler quand même de cette population sur une planète très lointaine, n'est-ce pas ?
Des extraterrestres sur une planète très lointaine. Une saga maintenant qui existe depuis plus de... Ça fait plus de 10 ans, attends, je calcule, ça fait plus... Ouais.
Alors, dis-moi.
Donc, de Predator Badlands.
Ah merde, je croyais que t'allais nous dire comment il s'appelle.
Alien ?
Pas Alien, non, Avatar.
Parce que tu sais qu'il y a quand même une série Alien qui est sortie cette année.
C'est vrai, j'ai pas vu.
Que j'ai pas vu non plus.
Alors, parle-nous de Predator Badlands, comme si on y était.
Bah, Predator Badlands, c'était quand même un peu une surprise aussi, même si c'est réalisé par le réalisateur de Prey. On en a parlé dans notre précédent épisode, Predator Badlands, donc je vais pas trop... m'étaler, mais c'était une super surprise parce que vraiment je m'y attends, enfin j'en espérais pas grand chose et je trouve que ça deliver comme on dit dans mon pays. C'était vraiment cool, c'est plein de bonnes idées. Alors c'est loin d'être le film de l'année et je veux pas survendre non plus le machin, hein, mais c'était super chouette et c'est assez rafraîchissant de voir que pour une franchise qui est maintenant aussi vieille, dans laquelle il y a eu autant de films, bah, il y a encore des gens qui disent « Non, mais on peut faire quelque chose de différent. On peut proposer des nouveaux trucs plutôt que de reprendre le schéma qu'on a déjà vu 15 fois, en fait, et d'essayer quelque chose. » Donc, je salue la prise de risque et j'ai vraiment trouvé ça super.
Bah, écoute, on ne va pas faire long non plus, mais évidemment, on parle de l'award de la meilleure suite d'une saga sortie au cinéma. Moi, je vais te parler d'effets à grand spectacle. Je vais te parler de beaucoup de CG, mais énormément de CG. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir vu le film avec des lunettes 3D. C'est un film ultra attendu d'un blockbuster. C'est Chasse gardée 2 de Frédéric Forestier avec, évidemment, l'inénarrable Didier Bourdon.
Donc je n'ai absolument jamais entendu parler. Même le premier, j'en ai jamais entendu parler.
Tu croyais que j'allais parler d'Avatar ? Non, on n'a pas vu.
Non, toujours pas. Il n'est pas sorti.
On n'a pas encore vu Avatar. Donc non, alors blague à part, Chasse gardée 1 était plutôt OK. Et ils se sont dit... Il y a beaucoup d'animaux en CG, on va faire le quintuple. Et du coup, il y a vraiment énormément d'animaux en CG, à tel point qu'il y a des marcassins et des sangliers genre adoptés et tout, qui marchent avec des êtres humains, ils suivent les êtres humains et tout, il y a des paons, il y a des biches, et c'est l'histoire de deux Parisiens qui ont quitté Paris, et en fait, ils s'ennuient. Il s'ennuie à la campagne, en fait. Mmh. Au bout de 2 ans, ça c'était le sujet du 1, ils arrivent à la campagne, ils sont exclus parce qu'ils sont parisiens. Maintenant, ils sont plus ou moins intégrés, même si tout le monde les appelle les parisiens. Et évidemment, le flic un peu bougon, raciste ou chasseur, c'est Didier Bourdon. Évidemment, il a passé toute sa vie à préparer ce rôle, hein, le rôle du chasseur. N'oublions pas la différence entre bon chasseur et mauvais chasseur. Mmh. Et là, il y a son fils qui revient. Il était en Angleterre, à la City. Et c'est un sale connard. C'est un vrai, genre, c'est un mec de la finance.
C'est un macroniste, quoi.
Un peu. Et en fait, il rachète les terrains et tout ça. Et en fait, ils disent non, mais rassurez-vous, parce que la chasse est interdite depuis. Ils disent non, mais rassurez-vous, on fait pas de la chasse, on fait de la chasse à court. Sans armes, mais avec des chiens. Et du coup, ils embêtent tout le village. Et même Didier Bourdon, il veut se débarrasser de son fils. Et alors, c'est pas toujours...
Si tu me dis qu'un chasseur veut se débarrasser de son fils, ça peut très très vite tourner au carnage. Hein.
Ouais. Et alors, c'est pas toujours ouf, je t'avoue. Les acteurs sont pas tous aussi bons que Didier Bourdon. Il y a Hakim Jemili. J'ai toujours un problème, j'arrive jamais à comprendre Hakim Jemili. Genre, je me tourne vers Jérôme, qui m'accompagne souvent, et je lui dis... Qu'est-ce qu'il dit? Et en fait, je me demande toujours si c'est le mixage ou simplement lui qui articule mal. Mmh. Camille Lou, elle fait de son mieux et tout. Mais en fait, le truc, c'est que j'aime bien le truc de la ville contre les champs. Je trouve que ça fonctionne toujours bien. C'est très bébête. C'est vraiment le film TF1 pur, quoi. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est un film TF1. Et voilà. Donc, il y a des petits caméos. Voilà. Il y a Chantal Latsou, évidemment, qui est en nymphomane. Chantal Latsou n'a fait que des rôles de nymphomane depuis 10 ans. Et à un moment, c'est tellement prévisible. Jérôme me dit, je sens qu'il va y avoir des blagues sur les couples échangistes. Et 2 minutes après, paf, blague sur les couples échangistes. Parce que la campagne, c'est chiant. C'est vraiment une vision vraiment débile. Mais t'as pas l'impression que c'est filmé vraiment à la campagne, t'as l'impression que c'est en proche banlieue parisienne en plus. Voilà, ça s'appelle Chasse Gardée 2. Non, c'est une semi-roco. Hein. N'y allez pas si vous n'avez pas vu le 1. N'y allez pas si vous n'avez pas vu encore plein d'autres bons films avant. C'est très décadent. Mais c'est décadent, ok. Voilà.
Bah, tu sais, ce qui est rigolo, c'est que tu dis que c'est un peu bébête, que c'est très prévisible et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas au niveau de Didier Bourdon. Bah, tout ça, ça marche aussi avec Avatar.
Et tu veux que je te dise un truc ? L'avantage de Chasse Gardée 1 et 2, c'est que tu peux voir les deux. Avatar ne sera toujours pas fini.
Et ouais, par contre, Avatar, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de blagues sur les couples échangistes avec Chantal là-dessous.
C'est sûr. Alors, on va peut-être parler d'Avatar, mais non, parce qu'on l'a pas vu.
Bah non.
Mais on va passer à l'award de la suite de Trop.
Qui peut-être pourrait être Avatar, mais vu qu'on ne l'a pas vu.
Vu qu'on ne l'a pas vu.
Est-ce que je commence ? Pour moi, la suite de Trop, en fait, c'est assez intéressant. C'est un contre-coup de ma meilleure surprise de l'année dernière. L'année dernière, ma meilleure surprise, c'était d'avoir aimé Wicked. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Et cette année, en fait, bah, Wicked for Good, la suite, j'ai pas du tout aimé. Je me suis ennuyé du début à la fin. J'ai trouvé ça globalement mal foutu. J'ai trouvé que le rythme était pété. J'ai trouvé que la narration était éclatée. Un énorme défaut, c'est que le film présuppose que tu connais super bien le film du Magicien d'Oz, ou même l'histoire du Magicien d'Oz. Et moi, je l'avoue, je n'ai jamais vu le film du Magicien d'Oz.
Ah ouais ?
Et en fait... Et non, je ne l'ai jamais vu. Et en fait, je sais à quel point il a été important dans l'histoire du cinéma parce que c'est le premier film en couleur. Je connais, j'ai vu en fait sur YouTube la scène où tu passes du noir et blanc à la couleur et je sais comment ils ont fait. En fait, elle était habillée avec des vêtements noirs et blancs. C'était filmé de dos dans la pénombre pour le reveal de la couleur. Mais c'est un film qui est sorti en 1939. Alors, je comprends pourquoi en Europe, il n'a pas eu le même retentissement qu'aux États-Unis en fait. Et quand tu fouilles un peu, tu te rends compte que Le Magicien d'Oz, en Europe, il y a des films, il y a des livres officiels de la série par l'auteur d'origine qui n'ont pas été adaptés avant le début des années 80. Donc Le Magicien d'Oz, en Europe, ça n'a pas du tout le même impact ou la même aura qu'aux USA. Et le problème, c'est que Wicked for Good part du principe que tu connais super bien tout le lore du Magicien d'Oz et le film Magicien d'Oz, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, du coup, bah, malheureusement... autant Wicked Partie 1 s'en sortait très bien, sans que t'aies besoin de trop connaître, juste tu connaissais un peu la base et puis tu t'en sortais. Là, malheureusement, il y a des moments où la narration, c'est un peu le bordel, quoi. Donc, si on y ajoute qu'ils ont rajouté des chansons qui sont nulles par rapport à la comédie musicale et que même les gros fans de la comédie musicale sont d'accord pour dire que la première partie, c'est la meilleure et qu'après l'entracte, ça devient un peu rompiche... Eh ben, je me suis vraiment fait chier, en fait. J'ai vraiment été super déçu par Wicked for Good, donc pour moi, c'est la suite de Trop.
Ah bah,
à toi, Daniel.
Écoute, tu confirmes tout ce que les gens me disaient un peu sur... Tout le monde me dit ça sur Wicked. Mmh. C'est qu'ils n'auraient pas dû le faire en deux fois, ou alors faire une longue séance, mais là, c'est vraiment la suite de Trop.
Ouais.
Mais écoute, moi, j'ai failli dire les Tuches, puisque, le savais-tu, il y a un Tuche 5 qui est sorti.
Je ne le savais pas.
Qui est pas ouf, mais vraiment pas ouf. Et le plot est très simple, c'est le même que Astérix en Angleterre, c'est-à-dire... Ils vont en Angleterre.
D'accord.
Et il se passe absolument rien. C'est ouf.
Ah, tu vois, je m'étais pas rendu compte qu'il était sorti cette année. Je pense que c'était plus vieux que ça, en fait.
Ah non, parce qu'en fait, là, c'est les Tuches 5. Il s'appelle God Save the Tuches. Et il est réalisé par Jean-Paul Rouve. Il se passe rien. Et tu sens que la plupart des acteurs n'ont pas envie d'être là. Alors, c'était déjà le cas avant, puisque Théo Fernandez, il a pas envie d'être là. Pierre Lottin, il a pas envie d'être là.
Théo Fernandez, ça fait pas genre trois suites qu'il a pas envie d'être là.
Et il y a même un film où genre, il est pas là, carrément, et il parle par visio ou par son psy ou je sais pas quoi. Mmh. Ils lui ont fait des scènes à part. Et c'est jamais bien. C'est jamais bien, mais c'est pas la pire suite de l'année.
D'accord.
Pour moi, la pire suite de l'année, c'est Death Stranding 2, quand même.
Ah ouais.
Autant j'ai adoré Death Stranding 1, autant Death Stranding 2 n'a rien à raconter. C'est terrifiant. Mm. Tous les trucs sont hyper téléphoniques dans Death Stranding 2. Tous les trucs sont surlignés. Même musicalement, c'est surligné parce que c'est genre, on va te faire chialer. Et les chansons, elles durent longtemps et elles répètent souvent le fait qu'il faut pleurer et pleurer. Et vraiment, il y a un truc, genre, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus.
Il n'y a pas le personnage de Kevin Kreiman pour te dire qu'il faut que tu pleures ?
Il n'y avait pas Kevin Kreiman, malheureusement. Et en fait, genre, il y avait Tarman. Donc, et c'est vrai qu'il y avait Tarman. Mm-hmm. Non, vraiment, c'était pas bien. C'était vraiment... Je me suis demandé si c'était une suite commerciale, mais d'après ce que j'ai entendu, comme on dit dans ce milieu scène des amis communs, non, c'est vraiment une suite qu'il voulait faire. Bah, écoute, je trouve ça très, très, très décevant. Et voilà, j'étais vraiment déçu, même le mécanisme. Alors évidemment, il y a quelques fans qui sont venus nous dire, ouais, mais parce que nous, on a dit, les véhicules, ça casse tout. Et comme tu fais beaucoup, t'es obligé d'utiliser du véhicule, les gens disent, vous n'avez pas qu'à les utiliser. Mais le jeu est fait de telle manière à ce que tu es un peu obligé de les faire plutôt que d'y aller à pied. Et voilà, c'est vraiment c'est décevant en tout point, y compris en gameplay, parce que tout d'un coup, maintenant tu peux tuer les mecs, tu peux tuer les gens, il y a plus de problème, il y a plus la problématique de pas tuer en fait. Et à chaque fois que tu donnes des objets à une base, ils te donnent des nouvelles manières, des nouveaux objets pour tuer des gens. Et je trouvais que c'était pas bien.
D'accord.
Maintenant, on va passer un award du meilleur. Comment peut-on l'appeler ? Qu'est-ce que je fous là ? Laisse-moi commencer en te disant,
vas-y.
On doit aller très vite, j'étais dans la salle et j'ai vu Kaamelott 2 et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ?
Alors, t'as vu Kaamelott 2 partie 1 ?
Kaamelott 2 partie 1, oui, parce qu'en plus c'est partie 1. Est-ce que tu l'as vu ?
Non, je ne l'ai pas vu car il n'a pas eu la chance d'une distribution aux US à ma connaissance.
Et alors moi, j'essayais de comprendre ce qui se... Et j'étais en train de dire, mais pourquoi ? Je comprends que Alexandre Astier, c'est Arthur. Et il part. Et à un moment, ils ont un mec qui s'appelle. Je te jure, il s'appelle Thomas Cousseau, comme l'ancien rédacteur chef de Gamecult.
Ouais.
Et genre, je me dis, mais c'est vraiment lui, Lancelot ? Et genre, à chaque fois, je regardais les personnages. Et il y a rien de mémorable qui arrive dans le film. Mais quand je te dis rien, c'est vraiment rien. 2 heures de discussion, c'est nul. C'est vraiment d'un niveau d'écriture catastrophique. Et surtout, en fait, quand tu... Il y a à certains moments, les personnages se disent entre eux, mais on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait là ? Et les mecs, ils disent, on va marcher jusqu'à un tel point. C'est vraiment 2 heures de gens qui marchent à gauche et à droite en disant des répliques, qui sonnent bien dans la tête du réalisateur, mais qui sont nuls. J'ai trouvé ça catastrophique. C'est ni fait ni à faire.
Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a un mec qui est allé le voir 250 fois en salle ?
Non, celui-là, je pense qu'il a bien fait d'aller voir le premier et pas le deuxième.
D'accord.
Et c'est moins bien que le premier. Hein.
Oui, et ça en dit long, parce que le premier, je crois qu'on l'avait déjà gravé bien bas la première fois.
Ah ouais, non, mais c'est la catastrophe.
Écoute, celui-là, je pense que j'aurais pas le temps de le voir avant qu'on marbre les blockbusters, donc ce sera toi tout seul, je pense. Je doute que Stéphane se le soit envoyé. Mmh. Moi, mon meilleur « Qu'est-ce que je fous là ?», c'est un film dont j'attendais absolument rien et à la base, franchement, je pensais pas forcément aller voir. C'est Tron Ares, puisque c'est le troisième volet donc de la saga Tron, qui est une série de films qui ne m'intéressent absolument pas en fait, qui sont des films que je trouve profondément ennuyeux, qui sont un peu jolis et qui globalement, la plupart du temps, sont sauvés par leur musique. Alors surtout le 2 et le 3, hein, on va pas se mentir, le premier, la musique elle est pas mal, mais elle est pas si mémorable. Pour le 2, ils avaient pris Daft Punk parce qu'ils sont un peu futés les mecs, ils se sont dit faut quand même attirer le chaland. Et pour le 3, ils ont pris Nine Inch Nails. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est Nine Inch Nails en tant que Nine Inch Nails, pas Trent Reznor et Atticus Ross. Donc, Tron Ares est considéré comme étant un album de Nine Inch Nails. Et cette BO, je la trouve extraordinaire. Alors, je sais qu'il y a débat que beaucoup de gens n'est pas d'accord avec moi qui trouvent que celle du deuxième est meilleure. Mais moi, je pense que la BO de Tron Ares est même supérieure à celle de Tron Legacy. Après, le film en lui-même, il y a 2-3 scènes un peu jolies, mais alors sinon, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Et puis, c'est d'une débilité. C'est très, très con. Et puis, bon, c'est un vanity project de Jared Leto, je pense. Je pense que s'il ne s'était pas pointé avec de l'argent en disant « Allez, on fait un nouveau Tron », personne n'aurait été partant, parce qu'on rappelle que Tron, ça reste quand même des films qui deviennent cultes 10 ans plus tard, ce qui pousse Disney à en faire un nouveau, mais à chaque fois, c'est des bides quand ils sortent en salle. Celui-là ne déroge pas à la règle, il a fait un gros flop. Alors peut-être qu'avec le bouche à oreille, dans 20 ans, il deviendra suffisamment culte pour qu'on se dise « Allez, on en fait un quatrième qui bidera aussi ». Mais sinon, voilà, ça n'a pas grand intérêt. La BO, en revanche, elle est super.
On ne va pas discuter longtemps sur le prochain award, puisque le prochain award, déjà, il rebondit un peu sur celui-là.
Mmh.
Et aussi, on n'a rien à dire sur celui-là, parce qu'on ne l'a pas vu, puisque c'est l'award du meilleur blockbuster, probablement nul, qu'il me reste à rattraper. Et j'ai pas vu Tron Ares, mais j'ai pas vu Minecraft et j'attends moins Minecraft encore.
Alors, je peux te dire, moi qui ai vu les deux, Tron Ares, c'est un chef-d'œuvre à côté de Minecraft.
Ok, d'accord.
Ah oui, non, Tron Ares, je préfère mille fois revoir Tron Ares que Minecraft. Mais vraiment, mais sans la moindre hésitation.
Et toi, qu'est-ce que tu as rattrapé?
Moi, le mien, c'est 28 Years Later, que je n'ai toujours pas vu.
On l'a mis dans les blockbusters?
Ouais, il me semble bien, hein,
oh là
dans les blockbusters.
Ouais, alors que c'est pas, y a rien à faire. Hein.
Écoute, bah, je l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Pourtant, j'ai bien aimé les deux précédents, hein, vraiment. J'ai rien à leur reprocher, mais le truc, c'est que Danny Boyle, des années 2020, je suis pas super... Bon, on verra bien, quoi.
Ouais, voilà. Exactement, on verra bien. On continue avec nos awards, et là, on va faire plus simple. On va faire quel award du meilleur jeu. Évidemment, toi, attends, je suis télépathe. T'en as parlé pendant les trois derniers épisodes. On va pas s'éterniser dessus, c'est Silksong.
C'est Silksong, c'est mon jeu de l'année 2025, sans la moindre hésitation. De toute façon, j'ai pas joué à beaucoup de jeux sortis en 2025, donc voilà. Toi, c'est un peu plus une surprise, ton meilleur jeu.
Moi, c'est une surprise parce que c'est deux jeux level 5. Level 5 qu'on n'attendait plus.
Ah ben, c'est leur année, là. Hein. C'est incroyable. Enfin, c'est leur année, littéralement, parce qu'ils ont sorti des jeux, quoi, déjà.
Ils ont sorti des jeux, ils ont sorti deux cartons, en plus. Et deux bons jeux.
Et ils n'ont pas sorti le jeu qu'on pensait sortir, en plus. Ils n'ont pas sorti Layton.
Non, Layton, il a du retard. Mm. Mais il devrait sortir l'année prochaine. Mm. Mais en tout cas, cette année, ils ont fait Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, c'est un gag. Pour nous, parce que il a été annoncé il y a 9 ans.
Ouais, voilà, ouais.
Donc t'imagines, il a été annoncé à la Coupe du Monde, mais pas la précédente, mais la précédente d'avant.
Ouais, 2016.
Il a manqué le coche, et ensuite il a remanqué le coche. Et en fait, ça se voit en termes de jeu, puisqu'il est gigantesque. C'est un jeu, il y a beaucoup à offrir. En fait, tu vois qu'ils voulaient faire deux histoires au lieu d'une. Ils ont fait un mode story qui dure déjà 25 heures, 30 heures. Et en plus, il y a un mode chronique qui dure encore 10 000 ans. J'en suis à 50 heures de jeu.
Ouais.
C'est à la fois le meilleur jeu de sport, le meilleur jeu de foot et le meilleur RPG.
Et il faut quand même bien voir que les précédents épisodes des jeux, le premier est sorti genre en 2008, la suite l'année suivante, la suite l'année suivante, et ensuite, il n'y en avait plus rien pendant 15 ans.
Ouais.
C'est ouf, hein, que le précédent est sorti en 2010.
Le nombre de dessins animés qu'il y a dedans, c'est assez incroyable, quoi.
Et aussi,
assez incroyable, c'est le retour de Fantasy Life. Alors, il s'appelle Fantasy Life E. Et c'est l'adaptation du jeu 3DS, mais refait complètement. Et avec plein de nouveaux jobs, avec plein de nouvelles histoires.
Ah, c'est un remake, c'est pas une suite?
C'est pas une suite. T'as pas besoin de jouer au précédent. Mais ça reprend exactement le même système, mais en l'améliorant en tout point et en faisant un super jeu multi. En faisant un jeu que t'as envie de retrouver tes copains pour jouer et tout. C'est vraiment super.
Écoute, je n'avais pas joué au précédent.
T'as pas besoin de jouer au précédent. Tu peux directement aller sur Fantasy Life E. Benji, on va remettre l'award du remake de trop et on va le dire ensemble le titre à trois en même temps.
Ok.
1, 2, 3.
Running Man.
Alors effectivement, Running Man, c'est...
On en a déjà parlé hein, globalement pour dire qu'on a trouvé ça vraiment dispensable en fait.
Ouais, c'est genre, tu sens, c'est à la fois un vanity project de l'acteur, à la fois...
Même Edgar Wright hein, qui voulait le faire depuis super longtemps, mais...
Je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais voilà.
Bah, la première heure, ça va, et ensuite c'est la catastrophe, quoi. C'est la débandade complète.
Mmh.
Ouais, non, je comprends pas. Il y a vraiment trop de soucis pour vraiment... Je pense que c'est un film... Et le pire, c'est qu'on a dû réfléchir parce que c'est un film que j'avais globalement oublié déjà.
Mmh.
Parce que c'est un film qui pourtant, ça essaie d'aborder des sujets qui sont intéressants, mais ça les traite d'une manière que je trouve vraiment complètement quelconque, en fait.
Mmh.
C'est vraiment un film qui ne m'a pas du tout touché. Ouais. Alors que la surprise, c'est plutôt The Long Walk, où je m'attendais vraiment à rien, surtout vu le pédigré du réalisateur. Et au final, j'ai trouvé ça super. Donc Running Man, vraiment décevant.
Ah, bah The Long Walk aurait pu gagner ton award suivant, celui de la meilleure surprise de l'année.
C'est vrai. Ça aurait pu être The Long Walk, ma surprise de l'année.
Pour moi, la surprise de l'année, je vais commencer sur celui-là.
Vas-y, bon, moi, ma surprise, elle est un peu pourrie, du coup. J'aurais dû mettre The Long Walk à la place. Donc...
Vas-y, tu peux dire The Long Walk.
Bon, ma surprise de l'année, c'est la Switch 2, qui au final se révèle être une excellente console. Alors que globalement, je m'attendais à juste une mise à jour vendue trop cher. Et non, il y a plein de petites features cool. Et je suis très impatient d'utiliser le mode souris pour la manette pour jouer à Metroid, que je n'ai pas encore joué. Donc.
Ah, j'ai fini Metroid. Écoute, on m'a proposé le mode souris, j'ai fait non. Et pour moi, c'est Donkey Kong Bonanza, qui est un jeu Switch 2. Et Donkey Kong Bonanza, évidemment, tu sais que je suis pas un lover de Donkey Kong.
Mais moi non plus, et je n'ai toujours pas joué à Donkey Kong non plus.
Dans Lord Tsumimasen, Donkey Kong, il n'y a pas sa place. On l'aime pas trop. Et là, c'est comme si ils sont allés dans une nouvelle dimension pour le créer, parce qu'en fait, c'est un jeu... J'adore les jeux qui ont un concept fort et sur lequel les mecs, en fait, itèrent chaque niveau et t'as une nouvelle idée. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait sur Mario 64, un peu, si tu veux. Et ça, je pense que c'est un de leurs jeux le plus ambitieux depuis Mario 64, hein, vraiment.
Et c'est l'équipe d'Odyssey, de toute façon, sur Donkey Kong Bonanza.
C'est l'équipe de Mario Odyssey. Et en fait, chaque niveau, il apporte une nouvelle idée de gameplay. C'est vraiment assez incroyable. Et puis ouais non c'est vraiment brillant à tout point. Et tu sais souvent on parle du gameplay en soustraction de que fait Sakurai, c'est-à-dire il y a moins de boutons à appuyer pour avoir plus d'effets, enfin tu vois on limite les choses. Et là c'est un gameplay par destruction et j'adore détruire les choses dans les jeux. J'ai littéralement acheté des jeux parce qu'on pouvait avec le gun, tu sais parce qu'on pouvait casser les fenêtres, genre Gangster Town sur Master System, j'ai acheté ce jeu parce qu'on pouvait casser les fenêtres avec le pistolet et je trouvais ça super de casser les fenêtres, je cassais toutes les fenêtres. Et voilà, c'est ma surprise de l'année parce que je l'attendais pas aussi haut, j'attendais pas aussi fort. Et je vais décerner un award très personnel maintenant.
Ouais.
C'est l'award de la meilleure sieste. Alors, comme vous savez, je m'endors parfois dans les films.
Parfois.
Non. Parfois. Quand c'est pas intéressant et quand c'est nul, je m'endors régulièrement.
Voilà, régulièrement.
Régulièrement. C'est plus, mais par exemple, là, ces derniers temps, ça m'est pas arrivé parce que j'ai mal à la jambe et il faut que je positionne ma jambe d'une certaine manière. Donc la douleur me tient un peu réveillé.
Ouais.
Mais ceci dit, je me suis endormi avec le film où Emma Stone, est-elle pas extraterrestre ? Et en fait, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait, j'ai fait. Ah, mais en fait, j'ai déjà vu ce film, j'ai déjà vu la version coréenne, en fait.
Ouais, je vois quel film tu parles, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu la version coréenne non plus. Donc...
Et comme je connais la version coréenne et je connais les twists et que c'était la même chose, j'ai fait, je me suis un peu endormi. Malgré ma douleur. Et moi.
Du coup, tu viens pas de dévoiler le twist du film dont on parle ou.
Non. D'accord,
parce que c'est Bougonia dont on parle.
J'ai juste dit que c'est la même chose que la version coréenne.
D'accord.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment vu la version coréenne et c'est un film hollywoodien. Moi, pour ma part, ma meilleure sieste de l'année, c'est Jurassic Park. Alors, je sais plus comment il s'appelle celui de cette année, tu te souviens ?
Jurassic World Rebirth.
Rebirth. J'ai un souvenir flou du film. Je crois qu'ils arrivent à un moment là-bas et après, je m'endors. Et après, je me réveille et tout d'un coup, je vois un mec dans l'eau avec un truc lumineux pour attirer un tyrannosaure. Il se passe rien et c'est la fin.
Et bon, j'ai trouvé ça nul à yèche. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de le défendre parce qu'il y a deux, trois scènes où ils disent qu'il y a quelques idées visuelles, mais... Ouais, non, franchement... Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'y avais pensé pour l'avoir de la suite de trop à ce film, mais on pourrait aussi argumenter que, globalement, Jurassic Park, t'as le premier film, et ensuite, t'as quasiment que des suites de trop. Alors, je sais qu'il y a des défendeurs de Lost World. Moi, je l'ai pas revu depuis la sortie ciné, donc je pourrais pas trop dire ce que je pense de The Lost World, parce que j'ai globalement oublié, mais après The Lost World... Globalement, il n'y a que des suites de trop, quoi.
Et on approche un peu de la fin, mine de rien. Ah, mais non, t'as pas fait la warm de ta meilleure sieste. Vas-y.
Du coup, moi, comme j'ai tendance à pas m'endormir au cinéma, à ma grande surprise d'ailleurs, j'ai essayé de réfléchir à quel est le produit culturel sur lequel je me suis endormi récemment. Et en fait, ça m'est arrivé très récemment sur un jeu qui aurait pu être aussi globalement ma déception de l'année ou la suite de trop ou plein d'autres choses. C'est Hades 2. Et je vais peut-être en faire hurler certains, mais je passe globalement un moment extrêmement ennuyeux sur Hades 2, alors que j'ai adoré le premier. J'ai plus d'une centaine d'heures sur le premier. Je l'avais racheté sur Steam. J'ai joué sur Steam et sur Switch. J'ai passé un temps incroyable sur le premier. Et Hades 2, je me fais chier. Je trouve que les armes sont pas intéressantes. Je trouve que les nouvelles mécaniques sont casse-couilles. Je m'ennuie. Je trouve que les décors se renouvellent trop peu. La musique, j'ai l'impression de réentendre la musique du 1. Alors, elle était très bien, la musique du 1, mais là, c'est la même chose. Globalement, j'ai l'impression que c'est vraiment more of the same. Et je voulais vraiment un truc qui se renouvelle un peu. Alors, on m'a dit sur le Discord qu'il faut insister et que les premières heures, oui, c'est comme ça, et qu'ensuite, ça commence vraiment à changer. Et c'est vrai que là, je commence à arriver à des endroits où il y a un petit peu de renouveau et de nouveauté, mais c'est trop peu et ça met trop de temps à arriver, en fait. Et je pense que si on m'avait pas dit sur le Discord qu'il fallait insister, j'aurais déjà abandonné, en fait. Il y a un gros problème de rythme. C'est pas possible de devoir se faire chier pendant 20-25 heures avant que le jeu devienne intéressant, en fait. Et sur les 4 armes que j'ai à l'heure actuelle, et il me semble que normalement il doit y en avoir 6, et il y en a 3 que j'utilise jamais parce que je les trouve super casse-couilles. Et puis toutes les nouvelles mécaniques qu'ils ont ajoutées, en fait, c'est du craft avec des divers ingrédients, plus avec diverses monnaies, plus c'est d'un casse-pied. Honnêtement, mais rendez-moi la simplicité du premier, quoi. Vraiment, y a trop de trucs. Trop de trucs relous.
Écoute,
pour que je prenne du plaisir sur Hades 2.
C'est ton avis, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont en désaccord, en Discord, en désaccord avec toi, et j'ai des gens qui adorent Hades 2 et qui détestent Silksong, et vice-versa. Écoute, moi, j'attends d'avoir ma version, j'attends d'y jouer à Hades 2 pour me faire un avis. Silksong, j'ai un peu peur du temps que ça peut prendre. On va passer à un award très important. C'est pas celui du pire mec, évidemment, puisqu'on l'a déjà fait, mais c'est l'award de la plus grosse gêne. Benji, quelle a été ta plus grosse gêne de l'année ?
Ma plus grosse gêne, ça a été ma séance de Fantastic Four où j'ai été extrêmement embarrassé pour à peu près tous les gens impliqués pendant tout le film, que j'ai trouvé vraiment mais nul à gage du début à la fin. Je sauve quasiment rien et je suis embarrassé pour tout le monde, quoi, parce que les acteurs, t'as l'impression qu'ils savent pas trop ce qu'ils foutent là. Ils sont censés jouer une famille, mais à aucun moment t'y crois. Et alors le script est d'une nullité consternante.
C'est un peu mal écrit, ouais.
Ça se retermine avec une bagarre dans une ville avec un monstre géant. Et autant, ça fait plaisir de voir Sue Storm qui est représenté comme étant le personnage le plus puissant de toute la famille. Ça fait quand même un peu pitié la manière dont ça se déroule, quoi. On a Reed Richards qui est censé être un mec super intelligent. Il enchaîne les idées de merde. C'était gênant. Gênant du début à la fin. Et vraiment, je trouvais ça catastrophique.
Eh bien, pour ma part, j'en ai eu deux. J'en ai un dont j'ai parlé, je pense, dans After Eight. C'était le mélange des genres. Est-ce que tu te souviens du mélange des genres ?
Non, rappelle-moi.
Alors, le mélange des genres, c'est évidemment... mes deux choix sont une comédie. Hein. Le mélange des genres, c'est une comédie réalisée par Michel Leclerc. Tu sais, c'est celui qui avait fait Le Nom des gens.
Ah oui, je me rappelle, t'en as parlé, oui.
Ouais, et le mélange des genres, donc, c'est une flic qui est plutôt de conservatrice, pour ne pas dire de droite, qui s'affile dans un groupe de féministes.
Mais pour, c'est ça. Ouais.
Mais on découvre, pour éviter de découvrir qui elle accuse un mec de l'avoir violée. Et le premier mec qui arrive, il est joué par Benjamin Laverne. Alors, est-ce que c'est une mauvaise idée ?
C'est Léa Drucker, hein, la meuf.
C'est Léa Drucker, ouais.
C'est ça.
Et c'est réalisé par Michel Drucker, et je pense que c'est une erreur à tout point de vue. Mais il y en a eu un autre qui s'est interposé. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Papa Mobile ?
Alors, est-ce que c'est pas le film qui est sorti genre dans trois salles, dans des coins super reculés?
Non, pas trois salles. Il est sorti dans cinq salles en France et pas à Paris.
D'accord, c'est ça.
Et pas à Paris. Mais pas
dans des grandes villes, quoi.
Non, et ouais, quasiment nulle part et tout.
Genre expédié, ouais. dans des petites villes un peu perdues.
Et par miracle, je crois que c'était au Luxor ou je sais plus quelle salle, il est passé dans une séance un samedi après-midi, évidemment. Je ne pouvais pas manquer ça. Je suis allé le voir.
C'est pas, y a pas Cadmerade dans ce film ?
Il y a Cadmerade. Cadmerade qui en fait des tonnes. Et en fait, c'est le pape qui est enlevé par un cartel de la drogue au Mexique. Sauf que les mecs découvrent que c'est pas le vrai pape, mais c'est un doppelganger.
D'accord.
Et du coup, c'est la reine du gang qui est joué par une actrice, mais c'est catastrophique. C'est vraiment, tu comprends pas ce qu'elle joue, en fait. Elle joue une diva, mais tu y crois à aucun moment. En fait, tu n'y crois à aucun moment à cette histoire. Mais pourquoi je te disais la gêne, c'est pas pour le film. C'est pour une séquence où Cadmerade, comme le pape, lèche des pieds. Il nettoie les pieds.
Oh mon Dieu.
Et il y a une scène où Cadmerade lèche le pied. Alors, évidemment, tu vois bien qu'il s'agit pas celui d'un vieux catholique, mais sans doute, je le sais de source sûre, d'une assistante de production. On lui a dit « si tu veux, c'est un peu moins dégueulasse. » Genre, ça, un pied reste un pied, hein, tu sais, elle peut. Mais voilà, c'est cette scène-là, au moment où je l'ai vue, où j'ai vu la séquence du pied, j'ai fait « ah ouais, c'est quand même un grand... On est face à un grand film. » Donc, Papa Mobile, c'est un peu un film mythique. Je sais pas s'il sortira sur les plateformes.
Eh ben, écoute, et s'ils ont réussi à faire disparaître Bad Buzz, ils arriveront à faire disparaître Papa Mobile, je pense.
Il est disparu, Bad Buzz ? Il est disponible nulle part ?
Mais Bad Buzz, il me semble que t'as une sortie DVD et ensuite, il a jamais été disponible nulle part, a priori.
Moi, je crois. Si, il était sur OCS à un moment.
Écoute.
Il était sur OCS, je sais pourquoi.
J'ai pas le sentiment.
Je sais pourquoi, parce que je suis rentré après la naissance de mon fils. J'ai eu la visite de Max Besnard à la maison. Et j'ai dit, oh, regarde, il y a Bad Buzz. On a allumé le début de Bad Buzz et on s'est dit, bon sang, le premier film auquel mon fils a été exposé dans sa vie, c'est Bad Buzz.
Bon, en tout cas, à l'époque où je cherchais à le voir, il était vraiment disponible nulle part. Alors peut-être qu'il a atterri sur OCS par accident à un moment, mais...
Non, bien sûr que tu peux récupérer ce chef-d'œuvre. Et maintenant, on va simplement passer au meilleur film. Quel est le film? Bon, je peux deviner, mais dis-le pour ceux qui auraient peut-être manqué un épisode en cours de route.
Tu peux deviner surtout que tu as le document ouvert devant toi.
non, mais sur ce, je te lis comme un livre ouvert aussi.
Mon film de l'année, j'en ai déjà parlé dans After Eight, et c'était vraiment une surprise là encore parce que je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. C'est Weapons. Weapons, ça a été vraiment un choc. J'ai adoré ce film du début à la fin. J'ai été pris au trip et je peux entendre des gens qui sont un peu gênés par le changement de ton un peu radical. Et il y a même deux changements de ton globalement dans le film qui sont assez radicaux, mais moi, ça m'a vraiment cueilli et j'ai trouvé ça vraiment. Incroyablement bien maîtrisé du début à la fin. Et c'était formidable. C'était formidable. La narration éclatée avec la chronologie dans tous les sens, ça a vraiment fonctionné sur moi. Et vraiment, Weapons, c'est vraiment un film que j'appréhende de revoir sur petit écran parce que j'ai peur qu'il n'ait pas du tout le même impact. Mais je pense que je le reverrai parce que j'ai vraiment, vraiment adoré ce film.
Et pour ma part, moi, mes deux films de l'année sont chinois, figure-toi. Donc, je vais faire en une pierre deux coups. Et le premier film de l'année, c'est un de mes cinéastes préférés qui s'appelle Jason Ke. Mm-hmm. Et il a réalisé un film qui s'appelle... en anglais, c'est Caught by the Tides. C'est sous ce titre-là que je l'ai vu. Et il est sorti sous le nom Les Feux Sauvages. Et c'est la vie d'une chanteuse... dans la Chine des années 2000, et il y a un time gap ultra important qui te fait repasser en 2020, juste au moment, juste post-Covid et tout. Et il fait des films quasi documentaires, en fait. C'est-à-dire que parfois, il y a une narration, il y a une trame, centrale, mais en fait, c'est presque un documentaire que tu es en train de regarder sur le temps qui passe de la Chine. Je me demande comment il arrive toujours à réaliser ces films, parce que honnêtement, ça doit pas plaire au gouvernement. Et c'est Jason Ke, c'est un des plus grands réalisateurs au monde, à mon avis. Mm-hmm. Et un autre film dans lequel Jason Ke joue un rôle, figure-toi, c'est ça l'ironie. C'est un mec qui est un peu son disciple. C'est un mec qui s'appelle Guan Hu. Et il a réalisé un film qui s'appelle Black Dog. Là, il n'y a qu'un seul titre, c'est plus simple.
Et j'en ai entendu parler sur le Discord. Il y a beaucoup de gens qui en disaient du bien.
Et c'est un mec qui sort de tôle. Et alors, c'est pendant les JO de Pékin. Mais alors, tu vois que tu sais, les villes ont été démembrées pendant les JO de Pékin, c'est-à-dire ils ont vraiment intensifié tout sur Pékin et le reste ils l'ont complètement détruit. Il y avait des quartiers à complètement abandonner et tout ça. C'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux puisque je suis allé en Chine en 2006 je crois, et je voyais tout ça, les quartiers qui allaient être détruits et je devinais qu'ils allaient être détruits et du coup le mec recueille un chien qui est supposément enragé, mais en fait pas du tout. Et ils s'attachent tous les deux, et c'est le début d'une histoire. C'est vraiment super. C'est un film, un peu lent, mais par contre, après les deux films sont un peu longs, mais par contre, il y a un truc ultra humaniste entre ce chien et ce mec. Voilà, j'ai adoré Black Dog. C'est vraiment peut-être mon film préféré de l'année. Alors évidemment, j'ai adoré Sinners. Sinners, c'est vraiment,
oui,
c'est vraiment la.
Moi aussi.
C'est vraiment la bonne surprise de l'année. Après, Sinners, ça fait quand même un bout de temps que ce mec-là, il fait quand même du bon cinéma.
Sinners et Weapons, qui sont deux films Warner, et on en parlait avant d'enregistrer. Warner, c'est quand même super effrayant ce qui se passe en ce moment avec les tentatives de rachat, parce que c'est des films qui, si jamais, par exemple, Netflix rachète Warner, c'est des films qui n'auraient jamais eu droit à une sortie ciné, Sinners et Weapons.
Et si c'est Paramount, ce sera sans doute sur Paramount Plus.
Et si c'est Paramount, voilà, ce sera pas mieux parce que c'est la famille Ellison et c'est des gros connards.
Ce sera Mission Impossible 2.1 Sinners. Ouais. Ça sera un truc comme ça.
Mais donc Sinners, ouais, c'était super aussi, vraiment. Ouais,
ouais, Sinners, super film.
Je pense qu'on en reparlera quand on gravera les blockbusters, de toute façon, parce qu'il était dans la liste.
Et il était dans la liste.
Ouais.
Écoute, on va dire que After Eight pour cette fois est fini.
Ouais. Alors
on vous passe le quand même un award. C'est l'award du meilleur Stéphane. Alors effectivement, ou plutôt du pire Stéphane.
Du pire Stéphane.
Et on voulait évidemment mettre un blâme sur notre camarade Stéphane Boulet, mais il est tombé la même année que Stéphane Plaza.
Ah, cette année, Stéphane Plaza, malheureusement, est le pire Stéphane.
Et le pire Stéphane.
Stéphane Boulet s'en sort bien.
Mais Stéphane Boulet, attention, méfie-toi, l'année prochaine, tout est possible.
Attends, tu sais que l'année prochaine, ça se trouve, on aura un outsider, Stéphane Sarkozy.
C'est possible.
Un fils caché qu'on connaît pas, qui se révèle en 2026. L'enfant caché que Sarko aurait eu avec, je sais pas, une co-détenue.
Moi, j'ai... Oh putain, t'imagines l'horreur. Oh l'enfer. Et méfie-toi, Stéphane, parce que moi, j'ai failli mettre dans l'award de la plus grosse gêne, j'ai failli mettre l'IA. Et en fait, moi, je voudrais une IA qui simule Stéphane Boulet et voir un peu si les gens croiront à la présence de Stéphane Boulet ou pas.
Écoute, je peux déjà demander à ma femme de faire une imitation de Stéphane Boulet, puisqu'elle est très très forte. Globalement, ça fait... Parce que quand j'écoute Super Ciné Battle, c'est tout ce qu'elle entend. C'est les hésitations de Stéphane et les «
Ah ouais, il en fait pas tant que ça, quand même.
Ben, en fait, à la base, je m'en étais pas rendu compte. Mais maintenant que je réécoute, et depuis qu'elle me l'a signalé, j'entends plus que ça, c'est absolument horrible.
Merci. Merci à ta femme qui gâche les podcasts. Et on la remercie. On vous remercie tous de nous avoir suivis. On vous remercie de nous soutenir sur patreon.com/RPU. Évidemment, pour nous écouter, c'est After Eight sur aftereight.fr et sur toutes vos applis de podcast. Je crois qu'on s'est tout dit, Benji. On a fait bref.
Écoute, on a bien enchaîné, là, quand même.
Ouais. Tu peux retourner à une vie normale maintenant, c'est bon ?
Je vais essayer de retourner à une activité normale.
On vous souhaite une... Ouais, parce que chez moi, il est tard, mais chez toi, il y a encore l'après-midi.
Moi, c'est encore l'après-midi, donc moi, je te dis à ciao, bon dimanche.
Et moi, je vous embrasse tous et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao.
Bisous.
J'enregistre.
Et moi aussi, j'enregistre. Et je vais parler bien près du micro, puisque c'est quelque chose que Baptiste m'a demandé de faire.
Ah ouais, il t'a demandé de faire ça ?
Ouais, parce que sinon, il y a de l'écho.
Alors, moi, ce que je voudrais faire, puisque Baptiste nous écoute, coucou Baptiste.
Coucou Baptiste.
Moi, je voudrais, comme c'est les awards, c'est une musique un peu... je rêve... Moi, c'est... Il fait... Alors, quand je fais... C'est la musique de... Comment il s'appelle ?
Des grosses têtes.
Non.
Pas de Rocky, quoi.
Non, c'est la musique. Non, ça c'est pas voilà. Ça c'est Amandine, elle fait chante Rocky. Non, la musique de
Qui est aussi les grosses têtes.
C'est la musique de la roue de la fortune au tout début.
Ah putain, je l'ai pas.
Tu l'as pas ?
Je l'attends.
Tu l'as pas ?
Non, ça me dit rien. Putain, c'est fou, je l'ai pas du tout. Mais dans le même temps, si tu me demandes tout de suite de chanter le générique de la roue de la fortune, j'en suis complètement incapable, donc.
Puis j'aime toujours Sévérance, on était une année Sévérance, donc j'étais assez content. Mais bon, moi, ma série de l'année...
Chouette saison 3, Sévérance.
Saison 2.
Saison 3.
Sévérance, c'est saison 2.
Non, là, c'était la saison 3.
C'est la saison 2.
Saison 3.
Sévérance, c'est saison 2.
Non, là, c'était la saison 3.
C'est la saison 2.
Saison 3.
Sévérance, c'est saison 2.
Non, là, c'était la saison 3.
C'est la saison 2.
Saison 3.
Sévérance, c'est saison 2.
Non, là, c'était la saison 3.
C'est la saison 2.
Saison 3.
Sévérance, c'est saison 2.
Non, là, c'était la saison 3.
C'est la saison 2.
Saison 3.
Sévérance, c'est saison 2.
Non, là, c'était la saison 3.
C'est la saison 2.
Saison 3.
Sévérance, c'est saison 2.
Non, là, c'était la saison 3.
C'est la saison 2.
Saison 3.
Sévérance, c'est saison 2.
Non, là, c'était la saison 3.
C'est la saison 2.
T'es sûr ?
Ouais. Sévérance, Two Seasons.
Ah, bon, alors, je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y en avait 3. Bah, non, bah, du coup.
Ok.
C'est parce qu'on l'a beaucoup attendu, en fait.
Ok, c'est oui, c'est parce qu'on l'a beaucoup attendu. Tu pourras gommer ça. Tu veux, refais. Chouette saison 2, Sévérance.
Chouette saison 2, Sévérance.
Je suis d'accord avec toi et on va passer au prochain award.
Une production RPU.